Eh bien, bonjour, bon début de semaine, bon lundi à vous tous. Lundi 10 juillet, nous amorçons la troisième semaine de Aime l'été. J'espère que vous allez bien. Un été chaud dans tous les sens et on ne manque pas d'activités, d'événements pour occuper notre été en ce moment. Les festivals se succèdent, tout le monde est au rendez-vous pour profiter des activités avec de nombreuses escapades aussi qui vous sont proposées partout à travers le Québec. Des lieux culturels qui ont rivalisé d'imagination pour nous offrir des programmations de choix, nous faire découvrir des artistes de talent. Et nous allons continuer cette semaine à faire de magnifiques rencontres, alors soyez des nôtres. Au cours de la prochaine heure, voici Aime l'été. Et aujourd'hui à l'émission, il sera question agriculture hydroponique dans nos écoles. Une entreprise de chez nous qui se spécialise dans la création et le déploiement de jardins hydroponiques en milieu scolaire. On en discute avec Alexandre Chamberlain, directeur de Viréo. Aussi, nous allons recevoir la réalisatrice du film Jules au pays d'achat, Sophie Farkas-Bolla. Il s'agit de son tout premier long métrage qui est présenté en ce moment au cinéma. Mais pour commencer, nous allons accueillir celui qui est le porte-parole de la fabuleuse histoire d'un royaume présenté au Saguenay, René Simard, toujours aussi généreux de son temps. On parle avec lui de ce qui nous attend du côté de cette fabuleuse production historique et théâtrale présentée au Saguenay. Bonjour, René Simard.
Bonjour Chantal, comment allez-vous aujourd'hui?
Ah ben très bien, très bien. Habituellement, parfois on se croise à l'épicerie, nous, mais
on
bon...
Ben oui, à Lorraine!
Oui, c'est ça!
Oui, au nord de Montréal, ben oui, c'est toujours un plaisir d'ailleurs.
Ah ben oui, c'est toujours moi, sympathique.
Je m'appelle Miroir.
Alors c'est très drôle, mais c'est amusant de se croiser comme ça un lundi matin. Mais alors évidemment, la naissance, l'évolution du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est racontée par plus d'une centaine de comédiens dans un environnement visuel et sonore à couper le souffle, un déploiement scénique incroyable, éblouissant avec des animaux sur scène, dont des chevaux. Et aussi du feu, un déluge, des coups de canon. Bref, c'est la fabuleuse histoire d'un royaume qui est présentée encore cette année pour une 35e année.
Ben oui, ben je pense que c'est la 36e édition.
Ah, oh, c'est la 36e, c'est ça,
oui,
exactement.
Mais
oui, c'est vrai.
C'était la 35e. J'avais eu la chance d'ailleurs l'an passé d'être également porte-parole et c'était aussi l'après-COVID. Alors tout le monde était très heureux de se retrouver. Et quand tu vois ces 150 bénévoles-là par show faire justement l'historique de tout ce qu'on a pu vivre là-bas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je trouve ça merveilleux. Puis moi, ça fait partie de mon ADN parce que je suis natif
mais oui,
de la région.
Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes, que tu es le porte-parole encore pour une deuxième année.
Oui, et oui, exactement. Puis je suis très content parce que je pensais qu'il allait me prendre pour une année, mais ça a l'air que m'essayer, c'est m'adopter. Fait qu'on m'adopte pour une deuxième année.
Oui, puis c'est pas parce que, j'arrive pas à tutoyer René, mais je vais y aller comme ça, comme ça vient.
Non, on se tutoie parce qu'on se connaît bien.
D'accord. Alors c'est ça, mais c'est pas parce que tu n'es pas occupé pour autant, mais au contraire, là, c'est vraiment avec dîner de con, là, c'est. Il y a plein de dates encore cet été et puis ça continue jusqu'en 2025. C'est quand même quelque chose, c'est phénoménal, ce succès de dîner de cons, hein?
Oh, vraiment, on est vraiment nous-mêmes assez étonnés parce qu'on s'est dit « Wow, OK, parfait, Laurent Paquin qui fait le con, François Pignon, il y a Normand Damour qui joue le rôle de Pierre Brochant, il y a Gabrielle Fontaine, celle qui joue Pascaro, qui joue Marlène, sa sœur, dans le show, mais très loin de Pascaro parce que là, elle joue une maîtresse. Et puis, il y a Pascal Montreuil qui joue la femme de Pierre Brochant, mais qui est également la vraie femme de Normand Damour dans le spectacle.
Dans la vraie vie,
alors,
mais
ça, c'est vraiment... Et Bernard Fortin qui a fait mille et une pièces dans sa vie.
Ouais.
C'est vraiment... c'est une gang, on se tient ensemble, on aime ça, on a du plaisir. Hier encore, on était à la salle Albert Rousseau à Québec. On fait deux shows par jour, hein, le samedi, deux shows. Et on se dirige vers le Théâtre C. Hein. On s'en va là à Saguenay à partir du 27
c'est
juillet.
Vrai.
Alors, c'est très bientôt. Et on est là jusqu'au 30 juillet.
Hey, oui, parce qu'il y a toujours beaucoup de dates. Et puis, mise en scène d'André Robitaille. Mais vous avez tout le monde, une énergie incroyable. Hein, parce que vraiment, c'est toute une aventure. En tout cas,
oui.
Puis le théâtre musical aussi.
Je dirais qu'André Robitaille, c'est le plus con des cons. Mais il est fou! Ça n'a pas de bon sens. Si les gens savaient jusqu'à quel point ce gars-là, il n'arrête pas. Mais
merveilleux.
On a du plaisir. Puis vraiment, je pense que c'est ça qui est... Je pense que le succès de Dîner de cons est vraiment basé sur le fait que les gens sentent la camaraderie entre nous et le respect mutuel.
Ouais, c'est
et c'est ça,
ça
qui est formidable.
Ouais.
C'est un peu ça aussi qui se produit avec la
fabuleuse. Avec la fabuleuse, parce que...
parce que la fabuleuse, une nouvelle mise en scène d'ailleurs de Ginny Doucet qui a fait un travail remarquable. Et quand tu vois ces gens-là et toute la logistique, ils ont refait plusieurs tableaux. Hein. Faut pas oublier, il y a un nouveau tableau de Saint-Jean-Vianney. L'an passé, bon, c'était une immersion sonore et tout a été retravaillé. Alors, c'est un show qui est en constante évolution. Et
tout
c'est ça
fait.
Qui est extraordinaire. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut voir le show, oui, mais il faut également le revoir.
Oui, exactement, parce que ça évolue constamment. Alors, moi-même, je l'ai vu il y a longtemps et puis, effectivement, ce serait à revoir avec tout cette évolution-là. Et donc, vraiment, c'est un incontournable quand on va au Saguenay. Il faut vraiment voir. C'est une scène immense. On n'en croit même pas nos yeux tellement que c'est immense, que c'est spectaculaire, effectivement. Donc,
mais c'est impressionnant parce que rares sont les spectacles qui ont duré aussi longtemps. Et je pense que c'est dû au fait du mode de fonctionnement de la fabuleuse. Je pense que les gens avaient le goût de raconter leur histoire. Je pense que les gens sont fiers de leur histoire. Moi, je suis très fier de mon histoire. D'ailleurs, j'ai eu la chance à un moment donné de faire une émission qui s'appelait « Qui êtes-vous? » et qui partait un peu de, justement, bon, ils voulaient montrer d'où je venais. Bon, ils ont parlé de l'île d'Orléans, bien sûr, mais on est allé à Saguenay, on est allé à Fjord, on est allé... Écoute, c'était formidable. Et en plus, on m'a amené en France.
Ah, oui.
Voir les pays de mes ancêtres.
C'est
moi, je pensais,
ça.
Je venais de la Normandie, puis ils voulaient pas m'en dire plus, ils voulaient me le dire rendu là-bas. Alors, j'ai atterri à Bordeaux, en France, et puis là, ben ils m'ont amené... pas loin d'Angoulême, un petit village qui s'appelle Puy-Moyen à côté, et c'est là que les Simards sont partis. Alors, ils sont partis de là, et là, ils m'ont emmené dans un genre de cimetière, et on dit, regarde pas tout de suite, puis quand on va te dire de regarder, tu regardes. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait, il dit, OK, regarde ce qu'il y a devant toi. Je me lève les yeux, je suis face à une sépulture, une pierre tombale, et c'est marqué « Ici J. René Simard ».
Oh non, vraiment.
Donc, il y avait un René Simard qui était là. Écoutez, ça a été pour moi un voyage très émouvant, et dans le temps et dans le présent.
C'est ça. Et donc, justement, on pense à la fabuleuse, ça rend tout ça aussi significatif parce que c'est toute l'histoire qu'on raconte finalement et l'implantation des colons et tout. Alors, ça part vraiment du début et puis vraiment, ça évolue jusqu'à nos jours. C'est ce qui était intéressant. Puis là, vous avez justement, tu as ouvert une porte là parce qu'il y a un nouveau tableau. C'était en 1971, le 4 mai 1971, le village de Saint-Jean-Vianney au Saguenay était le théâtre de l'un des plus importants glissements de terrain que le Québec est connu. Alors, vraiment, ça s'étend, ce désastre, ça va s'étendre sur environ 32 hectares de terrain. Ça emporte une quarantaine de maisons et cause le décès de 31 personnes. Et on a à peu près le même âge, René. Est-ce que tu te souviens de l'impact que ça a eu, cet événement-là? Parce que moi, je m'en souviens très bien. Et depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui m'habite constamment. Constamment, on s'entend. Quand j'entends parler de glissement de terrain, d'ailleurs, tu as dit qu'on habitait Lorraine, mais tu sais, bon, on a été touché un peu par ce phénomène-là. Puis, avec l'expérience de Saint-Jean-Vianney, aujourd'hui, on a développé toute une expertise aussi par rapport au glissement de terrain qu'on n'avait pas autrefois.
Ah, bien sûr. Je me rappelle tellement quand c'est arrivé, parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu à l'île d'Orléans avec ma famille. Et puis là, je regardais ça à la télévision, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas chez nous que ça se passe. J'étais catastrophié. Et ce que j'aime dans le tableau de Jimmy Doucet, c'est qu'il n'a pas joué le côté trop catastrophique, le côté trop triste de la chose. Non, il a joué plutôt sur le côté héroïque des gens.
Exact.
Oui, c'est ça. Et ça, je trouve ça beau.
Oui.
Parce que là, le sens, quand on se demande, ça veut dire quoi la résilience? Ben, ça veut dire ça. On est un peuple résilient. On est un peuple qui a compris tellement de choses. Et c'est ça qu'on aime partager avec les gens parce que ça fait partie de notre histoire, malheureusement. Et heureusement parce que ça a fortifié nos bases aussi à tous les niveaux.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, ça raconte vraiment les gestes héroïques que les gens ont posés à ce moment-là. Et puis, cette solidarité, c'était vraiment... Je pense qu'il faut aller lire même sur cet événement parce que c'est pour ceux qui... qui n'ont pas eu connaissance de cet événement-là. Et ben, c'est vraiment, vraiment, ça a été vraiment quelque chose. Et à chaque fois, je vois les maisons qui s'engouffrent et j'ai le sentiment moi-même, ça m'habite parfois de repenser à ça quand on entend parler de glissement de terrain, puis de m'imaginer les gens qui ont vécu de l'intérieur dans leur maison. Parce que, puis les gens étaient debout parce qu'ils écoutaient une partie de hockey. Hein. Puis d'ailleurs, ils ont modifié dans La Fabuleuse cette année l'ordre des tableaux, justement, parce qu'il y a un tableau sur le hockey. Et là, on le met juste avant cet événement de Saint-Jean-Vianney. Alors, c'est vraiment, c'est tout un... C'est très intéressant, cette mise en scène, effectivement, de M. Doucet.
C'est un bon positionnement pour justement nous mettre... parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est ce que ça veut dire. On ne sait pas s'il nous pend au bout du nez. Et c'est cette façon-là, très adroite, que Jimmy Doucet nous présente ce tableau-là.
C'est ça. Donc, voilà. Et puis, il y a maintenant aussi une exposition qui nous prépare, ou enfin qui peut être une suite de cette fabuleuse, là, quand on va voir le spectacle. Il y a une exposition à la Pulperie.
Oui, ben c'est ça. Ben parlez-moi-en, parce que ça, j'ai pas eu la chance d'y aller. Encore.
Ben c'est ça. Ben moi non plus. Mais enfin, je sais que vraiment, vous allez avoir
tout le tour de l'histoire. Ça, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Puis aussi par rapport à la fabuleuse, là, on entre vraiment dans les coulisses. C'est bien documenté. Il y a du visuel là-dessus. Là, on peut vraiment tout se faire. En même temps, voir l'exposition de ce spectacle à travers le temps. T'sais, on va suivre vraiment chronologiquement un peu le développement de cette grande production. Alors ça, c'est bien documenté aussi, parce que ça nous raconte aussi de l'intérieur comment ça se passe.
Exactement. Puis c'est beau dans tout ça, Chantal, j'aimerais rajouter ça, c'est que La Fabuleuse existe depuis 36 ans maintenant, et il y a des gens qui ont commencé en tant que jeunes, ils sont devenus pères, puis il y a même des grands-pères qui jouent avec leurs petits-enfants, puis que c'est incroyable. Ça touche à plusieurs générations, et c'est ça qui est touchant dans cet événement-là.
Oui, alors évidemment, beaucoup de partenaires là-dedans d'impliquer au Saguenay, et je pense que c'est ça, il y a vraiment toute une solidarité, les gens qui... d'abord, on peut toujours aussi, hein, je pense qu'à chaque année... On refait, il y a des gens qui peuvent se proposer comme bénévoles. Je pense que si on va sur le site de La Fabuleuse, là, on peut avoir le lien pour s'inscrire, pour éventuellement peut-être devenir bénévole, effectivement.
Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'on aura toujours besoin de bénévoles, de gens qui vont faire en sorte que ça puisse survivre à travers le temps. Parce que je pense que La Fabuleuse va durer, j'espère, éternellement, parce qu'on raconte de façon tellement majestueuse notre histoire.
C'est ça. Puis les moyens aussi évoluent, bien entendu. Alors, évidemment, les tableaux, le multimédia, tout ça, ça devient de plus en plus sophistiqué.
Exactement.
Alors, à un moment donné, avec toutes les possibilités qu'on aura, ce spectacle-là pourra devenir encore plus grandiose. Enfin, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, vraiment, je suis contente que tu sois le porte-parole de cet événement, puis j'espère que tu vas le demeurer fort longtemps, parce que évidemment tu es le meilleur ambassadeur, je trouve.
c'est tellement gentil. Mais moi, en tout cas, comme je vous ai dit, ça fait partie de mon ADN, puis je me plais à dire qu'il y a une statue qui a le regard vers les fjords à Ville-de-la-Baie. Et cette statue-là, c'est mon arrière-grand-père, et c'est on l'appelle Alexis dit le semeur.
Oh,
alors, c'est
oui.
Pour cette raison-là que... Puis même quand on m'a demandé d'être porte-parole, la personne, Claudine Bourdage, était pas au courant que c'était mon arrière-grand-père, cet Alexis-là.
C'est fou, hein?
Alors, c'est pour ça que j'attendais vraiment qu'on m'appelle pour être porte-parole, mais j'ai attendu 35 ans.
C'est quelque chose. Mais en tout cas, ça a été vu par des millions de personnes, là, je pense, avec tous ces 36 ans maintenant, là, c'est en fait 35 ans passés, mais quand même, ça fait plus d'un million de personnes qui ont vu cette fabuleuse histoire d'un royaume, et combien de touristes hein, qui ont pu apprécier cette production. Alors vraiment, et puis nous-mêmes, là, quand on va au Saguenay, alors c'est un incontournable. Je peux pas te quitter avant de... Il faut que je te parle de la famille Adams, c'est aussi qui s'en vient.
Oh, oui, la famille Adams. Je suis en plein dedans, parce que là, je reviens de Québec, et là, j'arrive bientôt à Montréal, et je dois vous dire que moi, je suis sur ce cas-là, qui est la famille Adams, depuis mai 2022. parce que ça prend du temps à monter ces shows-là. C'est 35 personnes sur scène, c'est 30 personnes dans les coulisses au niveau de la logistique, l'équipe technique et ainsi de suite. Et c'est aussi des partenaires qui ont eu le culot, devrais-je dire, d'embarquer dans cette aventure-là. Alors, c'est un privilège pour moi d'être capitaine de bateau de ce merveilleux projet-là. Et j'ai eu la chance de faire passer des auditions l'automne passé. J'ai passé 500 personnes en audition trouver les perles rares.
Les personnages,
et Dieu merci, c'est là qu'on se rend compte au Québec jusqu'à quel point on a du talent. Parce que oui, OK, du côté anglophone, il y a plein de gens qui chantent, qui dansent, qui jouent. Mais au Québec, avec le plus petit bassin de population qu'on a, c'est assez impressionnant de voir ces gens-là arriver en audition. Et à chaque fois que quelqu'un vient en audition, je les aime déjà parce que passer des auditions, c'est un don.
Quelque chose, ouais.
Parce que c'est pas sûr que tu vas avoir le rôle. Puis en même temps, ça demande une préparation.
On s'investit.
Je veux convaincre le metteur en scène, que ce soit moi ou René Richardson ou n'importe qui d'autre. C'est important de les voir dans les rôles qu'on veut leur assigner.
Ah oui, bon, en tout cas, c'est...
En tout cas, on est très heureux. On a fait une première lecture. J'ai Luc Guérin qui joue Gomez, hein? Rita Tabac qui joue Morticia. J'ai une jeune Alexandra Sicard qui joue le rôle de Mercredi. Mercredi, la télésérie qu'on a pu voir sur Netflix, là, puis qui est une des séries les plus regardées. Et Alexandra Sicard, c'est drôle, pas parce que je la connaissais, mais elle jouait ma fille dans Mary Poppins.
Ah bon?
Elle était toute jeune. Ben, oui.
On la reconnaît, et oui.
et celle qui jouait ma femme dans Mary Poppins, eh bien, elle joue un autre rôle, la mère d'une autre famille à l'intérieur. Et, alors, je me suis retrouvé.
Vous êtes en pays de connaissance. Ouais.
Oui, puis des gens qu'on connaît pas aussi. Des gens que les gens vont découvrir, parce que quand on parle de 35 personnes sur scène, il y a aussi les chorégraphies qui sont signées Team White. Ça, c'est ceux qui ont gagné la première saison de Révolution. Alors, il s'appelle Team White parce que c'est un frère et une sœur qui s'appellent Alexandre Leblanc et Catherine Leblanc. Mm-hmm. Alors, ils ont trouvé le nom assez original qui s'appelle Team White. Et ils sont merveilleux, ils sont jeunes, ils ont 26-27 ans. Même à eux deux, ils font pas mon âge. C'est ce que je Mais j'ai encore 4 ans d'âge mental et j'ai une chance d'émerveillement.
Tu as tellement d'expérience et puis comme metteur en scène, vraiment. Alors, oui, ça a dû. Ben, évidemment, et là, tu joues dans une pièce Dîner de con où c'est pas toi qui dirigeais, mais enfin, ça, un petit repos parce qu'évidemment, tu as l'habitude de prendre tout en charge, bien sûr. Ah, ben, en tout cas, je te souhaite un bon été. J'espère que tu vas avoir la chance de reprendre ton souffle un peu avec toutes ces dates. Et puis d'ailleurs, il faut se dépêcher, hein, Dîner de con, parce que ça affiche complet à peu près partout.
Ah oui, vraiment. Puis même à Saguenay, là, ben, même à Québec, écoute, la salle est quand même assez grande. Là, on joue pratiquement complet à 95% là, chaque soir. Et à Saguenay, j'ai regardé aussi, on n'est pas... C'est presque plein. Alors, si les gens veulent aller voir à Saguenay bientôt, à partir du 27, comme j'ai dit, après ça, on s'en va, on se promène. On fait Gatineau, on fait Brossard, on se promène un peu partout. On va même dans les Laurentides. Mais Dîner de con, ce qui est drôle, c'est justement le rythme des répliques. Ça arrive tellement vite, il faut pas dormir sa Suisse, comme on dit.
Non.
C'est embarquer dans un train à haute vitesse.
Oui.
Fait qu'il faut pas en manquer une et c'est ça qui est formidable.
Ouais.
Les gens peuvent pas s'imaginer au niveau de l'humour comment c'est chirurgical au niveau d'un silence, au niveau d'une façon de dire un texte qui peut ne pas être drôle si c'est mal interprété. Mais c'est quand tu regardes
c'est
le travail
sens du timing, hein, comme
de
disait
Normand Damour,
ouais, comme disait Denise Filiatro.
Paquet, c'est formidable.
Comme disait Denise Filiatro, hein, c'est le timing. Alors
oui,
voilà.
Le timing, oui. C'est long.
OK, ben merci beaucoup René Simard et puis bonne
merci
chance
Chantal.
Avec la famille Adams, on va suivre ça de près. Alors bon
Parfait.
Été avec
ah,
la
oui,
fabuleuse.
On verra l'épicerie.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on t'aura pas le temps. Alors en attendant. Ouais, c'est ça. La fabuleuse histoire d'un royaume, on va voir ça absolument cet été, il ne faut pas manquer jusqu'à...
Oui, à partir du 12 juillet.
Oui, c'est ça, jusqu'au mois d'août, hein, c'est ça. Oui, parfait, jusqu'au 19 août. Merci René, au revoir.
Ben, merci à toi, au revoir tout le monde. Bye.
Ils étaient quelques-uns 21 tout au plus, et leurs rêves communs sont bientôt devenus des villages et des villes pour des gens de vertu. Et c'est dans leur exil que l'on s'est reconnu. Ils n'avaient d'autre à faire en ce siècle béni que vaquer à la terre et s'aimer sans répit. Des femmes ouvrières et des hommes de prix, de plaisir en misère, ils ont fait un pays. Levons nos verres amis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. C'était la démesure, elle aura fait sa marque, à l'image, à l'allure de son fjord, de son lac. C'est dans sa langue folle qu'elle porte son trésor et qu'elle fait école notre contrée du Nord. Devant nos vers amis, à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. Et les vœux souffleront 175 étés pour les générations qui nous ont précédés, pour toutes celles à suivre, à ceux qui vont écrire dans quelques humbles livres ceux de nos souvenirs. Levons nos verres amis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. Amis, levons nos verres à l'arbre que nous sommes, et bon anniversaire au peuple du royaume. Remettons l'avenir à la croix de nos terres, pour les pages à écrire et les prières à faire. Pour les pages à écrire et les prières à faire.
C'était Mario Pelcha avec la chanson officielle du 175e du Saguenay, Des rêves à faire.
Eh oui, alors on dansait en studio, hein, c'est vraiment irrésistible. Bon, alors on va parler maintenant avec le directeur de Viréo, qui est une entreprise novatrice spécialisée dans la création et le déploiement de jardins hydroponiques en milieu scolaire, qui célèbre sa troisième année de présence auprès de centaines d'élèves et de professeurs à travers la province. Bonjour Alexandre Chamberlain.
Bonjour.
Bon, comment allez-vous? Alors là, évidemment, vous avez une petite pause, c'est l'été, mais quand même, vous êtes, j'imagine, très actif dans les projets à venir.
Ben absolument. Puis écoutez, oui, il y a certaines pauses parce qu'effectivement, c'est le congé auprès des écoles au Québec. Mais nous, Viréo, on est déjà rentré un petit peu au Canada, aussi aux États-Unis, fait que déjà, ça bouge à ce niveau-là. Et c'est un petit peu différent. Donc, on se tient occupé, on aime ça comme ça.
Oui, c'est ça. Donc, on parle de culture hydroponique. Parlez-nous-en de cette culture hydroponique, qui est une belle alternative, finalement, dans le domaine de l'agriculture urbaine.
Oui, ben en effet, quand on a fondé Viréo, nous, notre objectif, c'est de reconnecter les jeunes à la nature puis de les reconnecter avec l'agriculture urbaine. Puis au Québec, ben durant l'année scolaire, durant l'hiver, c'est difficile de le faire à l'extérieur.
Ouais.
Donc, la culture hydroponique, ben, c'est une culture qui peut se faire à l'intérieur, à l'année. Donc, ça permet vraiment de donner cette expérience-là aux jeunes puis de pas planter au printemps puis de revenir à l'automne avec les plantes souvent plus ou moins en santé parce que personne l'été à l'école.
Bien sûr. Et puis, bon, comment ça a germé, ce projet-là? D'abord, je pense que ça vient d'un projet universitaire pour vous, hein?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait un bac en génie agro-environnemental à l'Université Laval. À la base, ce que je voulais, c'était avoir un impact positif dans les villes. Je voulais rendre les villes plus productives au niveau alimentaire et énergétique. Donc, j'ai fondé, durant mon bac, AgroCité, qui est une entreprise étudiante qui fonctionne encore aujourd'hui. Et ce qui se fait, c'est la conception, l'installation, puis l'entretien des systèmes hydroponiques. Puis l'ensemble des légumes qui vont pousser dans ces systèmes-là vont être vendus par la suite au capital étudiant. Puis entre autres, en 2016, l'année où j'ai quitté, on était capable de ravitailler à 100% les besoins de capital du vachon, qui est le capital de sens et génie, qui sort pas loin de 150 repas par midi. Ça, c'était produit vraiment sur le campus, dans les lobbies, sur les toits, dans les pavillons. Donc, c'est extra local finalement.
Oui, c'est ça. J'ai manqué un petit peu. Là. C'était pour quel organisme là? J'ai manqué, le son a été mauvais. Non, ça va. Faites juste me rappeler l'organisme qui, en fait, dont vous parliez là.
Agro-Cité.
Ah, Agro-Cité, oui, d'accord.
Agro-Cité,
okay. Ouais, parfait. Bon, parfait. Et puis donc, il y a différentes façons hein, de faire de l'agriculture hydroponique. Il y en a qui sont peut-être écologiquement plus durables, façon de parler.
Oui, bien, en quelque sorte, effectivement, la culture hydroponique, c'est une culture hors sol. Donc, c'est une culture qui peut être, on pourrait dire, plus propre, parce que plus qu'il n'y a pas de sol, ben, il n'y a pas de terre, il y a moins d'insectes, etc. Il y a plus de contrôle aussi sur la culture. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on peut être très créatif la manière dont on le fait. C'est possible d'en faire de manière très verticale, d'avoir des murs hydroponiques, par exemple, des systèmes hydroponiques où est-ce qu'il peut y avoir des poissons. Donc là, on parle d'aquaponie. C'est vraiment les déchets des poissons qui vont aller nourrir, suite à quelques transformations, les plantes au niveau de leurs besoins en nutriments. On peut faire des systèmes hydroponiques très vastes, comme par exemple dans des serres, sur des toits, etc. Entre autres, les fermes Loufa à Montréal, là, qui font une très grande culture hydroponique Loufa, dans la ville, sur des toits, effectivement. Mm-hmm. Donc, c'est tout plein de sortes de systèmes hydroponiques qui peuvent exister. Nous, dans notre cas, dans les écoles, le potager hydroponique qu'on a, c'est un potager hydroponique qu'on dit éducatif. Fait que c'est vraiment un outil éducatif dans le sens qu'il est dimensionné pour qu'il puisse rouler et qu'il puisse passer par les portes, dans les ascenseurs et tout. Mais il y a aussi des éléments, comme par exemple, les jeunes peuvent écrire sur le potager comme sur un tableau blanc. Ils peuvent aimanter des choses dessus. Il y a certains petits défis ou problématiques qu'ils vont devoir résoudre pour apprendre à travers le potager. Donc, on fait vraiment... on utilise l'hydroponie pour faire un outil éducatif.
Oui, c'est ça, exactement. Bien ça, on va en parler justement. Tantôt, on va s'arrêter pour une pause, puis on va se concentrer là-dessus sur vraiment ce que ça comporte là, en milieu scolaire. Mais juste parler d'agriculture hydroponique, là, en fait, de culture hydroponique, parce que évidemment, dans le contexte des changements climatiques, c'est très important. Et puis, bon, pour les villes qui dépendent énormément de l'importation de produits alimentaires, bien sûr, et puis l'approvisionnement qui est un défi de taille là, pour justement subvenir aux besoins d'une population croissante. Alors, ça peut être une belle solution, mais encore, bon, il y a ça dépend toujours aussi de la source d'énergie qui est utilisée pour produire des aliments hydroponiques.
Ben oui, l'hydroponie, ben, premièrement, le système agricole, c'est un système important pour tout ce qui est lutte et adaptation au changement climatique. Et l'hydroponie ben, est un outil intéressant qu'on peut utiliser effectivement pour avoir un système agricole durable. Dans le sens que l'hydroponie ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais dans certains contextes particuliers, ça peut devenir super intéressant. Par exemple, au lieu d'importer des laitues, des fines herbes de la Californie ou du Chili ou quoi que ce soit, ben, on peut le faire localement ici au Québec. Surtout qu'au Québec, ben, la culture hydroponique prend une certaine quantité d'énergie.
Oui, mais avec l'hydroélectricité, c'est déjà mieux. Oui, c'est ça.
Exactement.
L'énergie
exactement.
Éolienne aussi, bon, tout ça, oui.
Exactement. Puis avec l'hydroponie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des cultures étagées. Entre autres, il y a ce qui s'appelle des fermes verticales intensives avec éclairage artificiel. Ouais. Fait que là, on a vraiment des entrepôts qui produisent des plantes.
C'est ça.
Et lorsqu'on produit, par exemple, des laitues là-dedans...
Monsieur Chamberlain, on s'arrête le temps d'une pause, mais je vous retrouve tout de suite après, d'accord? Restez là.
OK, ça marche.
Aime l'été.
Et de retour avec Alexandre Chamberlain, directeur de Vireo, alors qui implante de l'agriculture hydroponique dans le milieu scolaire, mais un peu partout ici au Québec, mais aussi même aux États-Unis. Alors, bonjour, rebonjour Alexandre. Alors, on vous a coupé la parole, bien sûr, mais bon, on parlait de cette culture hydroponique, bon, qui peut être intéressante. Et évidemment, il y a des sources d'énergie qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques que d'autres aussi pour faire ce genre de culture.
Ben oui, en effet. La culture hydroponique, c'est un outil intéressant dans la lutte et dans l'adaptation au changement climatique, dans le sens où on peut produire des produits maraîchers comme des laitues, des fines herbes, etc., dans les villes extra-locales et laisser de la place dans la zone de périphérie pour tout ce qui est production agricole à haute valeur calorifique, comme tout ce qui est céréales, etc.
Alors, vraiment très intéressant. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, dans les écoles. Alors, c'est un magnifique projet parce que c'est comme vous disiez tantôt, c'est un outil en même temps d'apprentissage. Vous l'intégrez vraiment à la pédagogie en même temps. En fait, c'est un laboratoire vivant et puis ça permet aux jeunes vraiment d'expérimenter, de comprendre aussi, puis de comprendre ce qu'est finalement, enfin, de mieux comprendre l'aspect alimentaire, c'est ça, en milieu urbain notamment.
Oui, et aussi, je dirais même surtout, ça permet de servir une expérience à l'élève. Dans le milieu scolaire, une des principales priorités présentement de l'équipe école, c'est la santé, le bien-être de l'élève, mais aussi sa connexion avec la communauté. Donc, nous, un potager hydroponique, ce que ça permet de faire, en fait, un projet d'agriculture urbaine, ce que ça permet de faire, c'est d'engager le jeune dans son éducation. Puis l'engagement, c'est une des choses qui est le plus difficile à faire pour un professeur. Et en reconnectant le jeune à la nature, on permet de se connecter à lui, à sa communauté, à l'impact qu'il peut avoir par la suite. Puis finalement, on l'engage dans son système académique, dans sa santé et dans sa communauté. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, d'aller allumer quelqu'un au fond de lui, en quelque sorte. Puis l'agriculture urbaine est une excellente manière de le faire. On a tous en dedans de nous ce besoin-là de connexion à la nature. On se sent bien en forêt, on se sent bien dans un jardin. Ben, ce phénomène-là, on veut le régénérer dans les écoles, et ça permet aux jeunes de se sentir plus heureux, ils sont en meilleure santé, ils ont plus envie de collaborer, ils sont plus proactifs, puis surtout, ça va donner un sens. Pourquoi ils sont à l'école? C'est un jeune qui, je vais donner un exemple concret, là, un jeune qui va faire un projet de potager hydroponique où les laitues vont être données une œuvre de charité pour un repas le midi à des gens défavorisés, bien, le jeune comprend que tous les efforts qu'il a mis, toute la persévérance qu'il a eu à faire pousser ces aliments-là, va avoir eu un impact positif sur une personne à une journée X. Et là, le jeune comprend que ce cheminement-là d'être persévérant et d'apprendre, est-ce que ça s'applique aussi dans l'ensemble de son parcours scolaire? Est-ce que lui, plus vieux, va pouvoir aussi avoir cet impact-là dans sa vie professionnelle ou communautaire? Puis la réponse est oui, puis le jeune se reconnecte à ça, puis il devient motivé, puis on voit les transformations et des jeunes qui deviennent des leaders négatifs dans leur école grâce à ce sens-là qu'on donne.
Oui, c'est fascinant. En même temps aussi, développer peut-être la fibre entrepreneuriale, hein, pourquoi pas?
Absolument. Ben, écoutez, l'entrepreneuriat, c'est même ma raison d'être. Hein. Moi, Viréo, c'est mon premier travail. C'est ma première entreprise. Je suis fraîchement sur l'université. J'ai décidé d'être entrepreneur pour pouvoir me développer à mon plein potentiel puis contribuer. Puis on fait vivre cette fibre-là aux jeunes. Il y a beaucoup des projets qui sont dans les écoles qui sont de nature entrepreneuriale où les jeunes vont faire grandir des plantes qui vont transformer pour vendre à la cafétéria ou qui vont vendre aux dépanneurs du coin ou aux parents. Puis ils comprennent qu'il y a un potentiel d'impact, mais aussi de rentabilité. Puis ça les engage sur leur apprentissage très concret par la suite.
C'est ça. La réponse des professeurs par rapport à un tel projet, j'imagine que ça doit être fascinant aussi pour eux, finalement, de développer ce projet-là.
Absolument. Il faut le dire, nos professeurs sont super occupés. On le sait, là, c'est vraiment incroyable quand ces gens-là sont passionnés puis sont motivés, puis c'est une vocation pour eux d'être enseignants. Fait que pour eux, de faire ce projet-là, ça devient encore une fois parfois quelque chose de plus pour eux. T'sais. Nous, on essaie vraiment de les accompagner le plus possible. On a une application avec toutes les technologies qu'ils ont besoin pour que le projet soit simple. Il y a des gens aussi à l'interne qui peuvent leur prêter main forte pour les accompagner, mais effectivement, lorsqu'ils s'impliquent, leur travail devient plus motivant, puis parfois même plus, j'ai envie de dire, presque plus simple, parce que les jeunes sont tellement engagés dans la classe. Il y a une diminution, tout ça est anecdotique, bien sûr, mais une diminution des conflits entre les élèves, parce qu'ils apprennent à se connaître et à partager ensemble autour d'un projet. Puis il y a certains profs même qui décident de prendre leur retraite plus tard. Parce qu'enfin, un projet qui leur permet de... Oui, parce que, tu sais, au final, le prof, ce qu'il veut faire, c'est pas donner des notes. Le prof veut vraiment avoir un impact profond sincère sur le jeune, puis ce projet-là permet de le faire. Puis il y a des profs qui nous disent qu'enfin, ils peuvent réellement s'actualiser comme enseignants en réellement donnant cet impact-là.
Ouais.
Puis nous, ça nous comble. On est très heureux d'avoir cet impact-là avec ce qu'on fait.
Donc, des écoles primaires, mais est-ce que il y a des écoles secondaires aussi?
Oui, on a vraiment tous les niveaux. Nous, la manière dont le projet est construit, c'est spécifiquement pour les 9 à 14 ans. Donc, la fin du primaire, début du secondaire. Mais il y a quand même des cégeps qui font des projets et des premières années. Là, ça va prendre un petit peu d'adaptation pour le prof pour réussir à adapter tout ça. Mais ça fonctionne bien. Tous les niveaux peuvent bénéficier de projets comme ça. Puis même qu'on se rend compte que le primaire semble de plus en plus approprié pour ce qu'on fait. Simplement parce que le prof, étant généraliste, il peut utiliser le projet pour l'ensemble de ce qu'il fait dans sa classe.
Alors, ben oui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on peut l'appliquer aussi selon nos matières. On peut pratiquement faire finalement la mathématiques, français. Enfin, on pourrait lier ça à ce projet-là, à la limite. C'est pas un problème. Il suffit d'être créatif.
Oui, oui. Nous, par abus de langage, en exagérant un peu, on dit qu'avec une tomate, on peut faire l'ensemble du curriculum scolaire.
Ah, oui. C'est
un sujet qui est sans fin, pratiquement. Là. Donc, puis les profs nous surprennent parce que nous, ultimement, ce qu'on donne, c'est des outils aux professeurs. On donne le contexte qui est la culture urbaine, puis on donne l'approche qui est de la pédagogie active. Puis c'est le prof, après ça, qui va utiliser ce nouvel outil-là pour accomplir ses objectifs, que ce soit curriculaire, que ce soit d'engagement, que ce soit d'inclusion. Puis nous souvent tout le temps avec les projets qui réussissent à imaginer. On a un prof qui a décidé, entre autres, de faire pousser de l'aspétiable, qui est la fleur auquel les monarques se nourrissent, parce qu'à la fin de l'année, il y avait des papillons qui allaient venir dans l'école, donc on peut faire un lien avec tout ça. Puis tout ça dans le cadre d'une classe de sciences. On n'aurait jamais imaginé ça.
Mais non, c'est ça. Finalement, vous-même, votre projet évolue constamment. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, 235 écoles en 3 ans qui ont été touchées par votre projet, finalement, à travers le Québec et à travers le Canada. Puis aux États-Unis, là, c'est vraiment, ça s'implante aussi de ce côté-là.
Oui, ça démarre aussi. Je veux dire, l'ensemble de la planète est touchée par ce changement climatique. Puis tout le monde, présentement, essaie de s'aligner par rapport au développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU en 2016, je ne me trompe pas. Puis l'ensemble des paris gouvernementaux s'alignent par rapport à ces objectifs-là. Puis l'école est un excellent endroit où enseigner ces objectifs-là, puis aussi développer des compétences.
Ouais.
Parce qu'à l'école, c'est pas juste apprendre à compter, à pas faire de fautes en français et tout. C'est aussi comment on a des compétences, comment on devient des citoyens engagés, comment on est des gens qui sont créatifs, qui peuvent bien communiquer. Puis c'est ça qu'on veut aussi développer à travers ces projets-là très terre à terre, ou enraciné, pour faire de mauvais jeux de mots.
Bref, non, ça va, mais bref, Alexandre Chamberlain, vous étiez un visionnaire, finalement, vous êtes arrivé avec ce projet-là et c'est formidable parce que là, on ne sait même pas ce que ça va donner dans l'avenir, c'est-à-dire que ça peut s'ouvrir à des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, en tout cas. Mais bravo pour ce projet.
Ben, merci, on en est très, très fiers. Moi, depuis quelques mois, si jamais Viréo, pour X raison, il y a une météorite comme ça, Viréo, puis ça arrête, Moi, je suis déjà rempli comme entrepreneur, comme visionnaire.
Oui, c'est ça.
Notre impact est sur plusieurs centaines de professeurs, plusieurs milliers de jeunes. Et maintenant, notre travail, c'est d'amener cet impact-là à 10, 100, 1000, 10 000 fois plus de jeunes.
Bon.
Donc, c'est très motivant.
Le message est passé. Et donc, on communique avec vous, bien sûr. Ce sont les écoles qui peuvent aussi vous approcher. Alors, on va sur votre site Internet, Viréo. Je pense qu'on aura tout l'info là-dessus.
Oui, viréoéducation.com. Viréo veut dire être vert en latin.
Ah, d'accord. Viréo.
Education.com. Vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre et faire un petit coucou.
Bon, Alexandre Chamberlain, bon été et puis je vous souhaite longue vie à ce magnifique projet.
Ben, un grand merci. Merci pour la discussion, c'est super intéressant.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Les vagues de quitter la nuit, elle garde le tempo, elle te rappelle que t'es toujours en vie dans le calme de ma lieu. Des étoiles dans le ciel, car la nuit ici n'existe pas. La ville est envahie de soleil artificiel. Ce serait mentir de dire que je m'ennuie pas. Ce serait mentir. Oh,
C'était Namwesh Taten Nete de Canen et Louis-Jean Cormier.
Bon, ben bravo, oui, pour la prononciation. Merci, Nicolas. Alors, belle façon d'introduire ma prochaine invitée, Sophie Farkas-Bolla, réalisatrice du film Jules au pays d'Acha, qui est un conte familial, qui est en salle présentement, donc présenté à travers le Québec. C'est son premier long métrage. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Bon, ben, au plaisir de parler avec vous de ce beau film là que j'ai terminé de regarder hier soir. Et évidemment, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant, moi aussi. Alors, c'est vraiment
bon. C'est ça que je voulais.
C'est ça, hein, c'était le but. Alors, ben oui, ça fonctionne très bien. Donc, pour toute la famille, en effet, et pour tout le monde, de toute façon, très agréable. En fait, oui, c'est votre premier long métrage, mais évidemment, vous en êtes pas à votre première expérience en cinéma. D'ailleurs, vous aviez aussi, au niveau vous aviez déjà une sensibilité sur les questions autochtones en même temps, parce que vous avez travaillé sur un documentaire précédemment.
Oui, en fait.
Il y a une dizaine d'années, ça fait longtemps quand même. Oui,
oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur un documentaire qui s'appelait Angry Inuk, qui était réalisé par la réalisatrice Inuk Alicia Arnacook-Barry. Ça a été un très long processus. À cette époque-là, ça a pris environ 2 ans et demi monter le film. Et puis, à travers cette expérience-là, j'ai vraiment collaboré avec la réalisatrice. On est devenus amis. Puis je me suis rendu compte que c'était en même temps que la commission Vérité et Réconciliation qui sortait. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas, qu'on m'avait pas appris à l'école. Puis je pense qu'à partir de là, j'ai commencé comme une grosse période de réflexion à me demander comment ça se faisait. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai collaboré aussi avec Tracy Deer sur le film Beans, qui était sur la crise d'Oka, qui est sorti il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non, mais vraiment, je sais, j'ai entendu parler de ce film.
Oui,
aussi. Ouais, exactement.
C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans pendant la crise d'Oka. En fait, c'est son histoire à elle, mais c'est une fiction. Puis, j'ai aussi travaillé avec le Wapikoni Mobile. Fait que ça fait une dizaine d'années que je m'implique comme je peux à ce niveau-là.
Ouais, vous êtes la petite fille d'un réfugié politique, la petite fille parce que c'est votre grand-père, d'un réfugié politique hongrois. Donc toutes les questions par rapport à l'inclusion, tout ça aussi, vous êtes donc sensible également à toutes ces préoccupations.
Oh oui, oui, absolument. Moi, j'ai grandi dans une famille très multiculturelle, interculturelle, vous l'appelez comme vous voulez. Mon père, c'est un anglophone de Montréal, ma mère est moitié hongroise, moitié française. J'ai grandi dans, j'étais dans une école aussi multiculturelle à Montréal, fait que j'ai été très vite sensibilisée à ces choses-là. Mais en fait, c'est toujours été autour de moi. Je m'en rendais même pas compte. En fait,
c'est ça. Donc, c'est vraiment pour vous un naturel, au fond, d'aborder ces questions-là. Donc, c'est ça. Bon, ben, évidemment, vous avez un beau parcours et vous, en fait, un film, bon, par exemple, ce film-ci, Jules au pays d'achat, ben, je veux dire, forcément, ça a été présenté aussi dans des festivals. Hein. C'est un film qui a voyagé en même temps.
Oui, absolument. Il vient juste de sortir. Là, on a fait plusieurs festivals déjà en Europe. Puis je pars dans 2 semaines, je m'en vais en Italie, à Gifoni, pour le festival de Gifoni, qui est un des plus grands festivals au monde pour le cinéma jeunesse. Donc, j'ai très, très hâte parce que c'est vraiment un festival légendaire, vraiment axé sur le cinéma pour les jeunes de tout âge, avec des films de partout dans le monde. C'est vraiment extraordinaire dans ces festivals de films jeunesse-là parce qu'on voit toutes sortes de films pour les jeunes. Vraiment, on est loin des films de Disney. Toutes sortes de propositions audacieuses, intéressantes. Puis les jeunes, ils aiment ça. Fait que c'est vraiment, vraiment excitant.
Donc, c'est merveilleux. Oui, effectivement, ça, j'imagine que c'est très, très, très stimulant pour quelqu'un comme vous. Et puis alors, vraiment, ce film-là, bon, c'est à la fois, bon, ça se passe, bon, Jules au pays d'achat, ça se passe dans les années 40, mais en fait, on voit tout de même des enjeux de société, enfin, à la fois très actuels en même temps. Alors, c'est ça, ça parle, bon, d'une part, de l'histoire d'une amitié improbable entre un jeune colon nouvellement installé dans le nord du Québec et une fillette autochtone, mais il y a tout aussi une dimension, là, politique, enfin, de l'époque qui était... en fait, ça raconte aussi en même temps une histoire vraie, là, qui s'est passée dans la région d'Amos.
Oui, ben en fait, je me suis inspirée de plusieurs événements qui se sont passés en Abitibi plus de manière générale. Je voulais pas faire un film historique dans la mesure où je voulais plus faire un film d'époque puis raconter une situation en m'inspirant de faits qui sont arrivés plus dans le coin de Neglec. En Abitibi, mais je voulais, c'est parce que cette situation-là est arrivée partout en Amérique. Fait que c'est comme, je voulais la rendre plus universelle possible. Donc, c'est pour ça que je ne m'attardais pas à des détails. Je voulais plus donner une impression de quelque chose d'un peu plus large. C'est mais ça. Tout est inspiré de faits qui sont réellement arrivés.
On parle bien sûr d'appropriation de territoire, notamment. Alors, voilà, c'est vraiment, c'est toujours, bon, tout est toujours d'actualité.
Mais c'est toujours d'actualité. Tous les enjeux territoriaux, par rapport à l'exploitation des ressources, c'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive encore. Et puis, c'est ça, c'est une façon de parler de ça, mais pour les enfants. Moi, je voulais vraiment parler aux enfants, c'est de parler aux enfants d'une amitié entre deux enfants qui viennent de deux mondes différents à travers la magie, l'aventure, la forêt, tout ça. Mais quand même que ce soit ancré dans une histoire qui est la nôtre, en fait.
C'est ça. Et alors, tout était dans la manière de raconter cette histoire-là. Donc, vraiment beau scénario. Et puis, évidemment, une production très... Une belle production aussi, vraiment, visuellement. On entre nous-mêmes dans cet univers et c'est réjouissant. Et des jeunes comédiens aussi. Bon, vous avez quand même trouvé deux perles rares, Alexandre Duprat et Gabi Jourdain, évidemment, qui viennent de milieux tout à fait différents, dans le sens qu'Alex... Bon, Alex, on a pu le voir dans certaines série québécoise, on pense à Plan B, entre autres, hein, je pense, c'est ça?
Oui, exact.
Ouais. Et puis Gabi Jourdain, ben, ça c'est particulier parce que, en fait, vous avez lancé des auditions et tout, et elle vient de Maliotenam, c'est ça?
Oui, exact. Gabi habite à Maliotenam, c'est à côté de cette île. Et oui, donc on a fait une grosse... Pour trouver le personnage d'Achat, on a fait un gros appel de casting partout au Québec. On s'est déplacé dans une dizaine de communautés. Parce qu'il n'y avait pas vraiment dans les agences de casting à l'époque, il n'y avait pas vraiment de petites filles autochtones de l'âge dont j'avais besoin. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis c'est comme ça qu'on a trouvé Gabi, qui est vraiment extraordinaire. Je pense qu'elle est lumineuse dans le film.
Oui, tout à fait. Donc, et puis, c'est ça, elle, tout de suite, quand vous avez lancé les auditions, quand elle a su, eh ben, elle s'est inscrite. Et puis vraiment, ça, c'était son idée était faite.
Oui, Gabi, c'est quelqu'un de très déterminé dans la vie. Quand elle a une idée, elle le fait. Fait que pour ce rôle-là, en fait, comment on fonctionnait, c'est qu'on demandait, on envoyait des appels de casting dans les communautés, puis on leur demandait de nous envoyer une vidéo, puis s'ils envoyaient une vidéo, on leur envoyait la scène qu'ils devraient préparer pour l'audition. On leur donnait un jour et une heure de rencontre pour l'audition. Fait que Gabi, elle a envoyé son vidéo. on lui a envoyé la scène et tout ça, mais elle n'a jamais parlé à ses parents. Elle a tout fait ça tout seule. À 11 ans, elle avait écrit son adresse courriel, elle a fait son vidéo, elle l'avait envoyé, elle est venue à l'audition avec sa sœur, elle l'a pas dit à ses parents. Puis finalement, quand elle a été sélectionnée dans les top 5, puisqu'on est allé par un processus d'élimination, là, il fallait qu'elle dise à ses parents, parce qu'il fallait qu'elle vienne passer la fin de semaine à Montréal pour faire des ateliers de jeu avec notre coach de jeu pour voir si... C'est un rôle principal, c'est beaucoup de jours de tournage, voir aussi la motivation du jeune, si ça vient vraiment de lui, si ça a vraiment envie de faire ça, s'ils apprennent vite, toutes les choses qu'il fallait qu'on voit. Puis bon, évidemment, Gabi, quand elle se met quelque chose dans la tête, c'est difficile de la faire changer d'idée.
Ouais, mais ça paraît d'ailleurs un peu, mais même dans son rôle, là, c'est vraiment, ça transparaît, ben oui. Oui, bien sûr. Elle avait effectivement le casting parfait. Et puis donc, c'est ça. Alors, vous avez, évidemment, c'est jamais facile hein, de trouver de jeunes comédiens comme ça, mais vraiment, c'est une belle distribution. On peut parler aussi des autres comédiens. Vous avez bénéficié aussi de l'intérêt, enfin, de la communauté Innu, là, qui aussi qui s'est engagée là-dedans.
Dans le film, c'est les Anishinabés, en fait, qu'on voit.
Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait.
Parce que ça se passe en Abitibi, donc on est sur le territoire Anishinabé. Donc c'est vraiment important pour moi que les autres comédiens du film, dans tous les personnages qui sont dans la communauté à côté du village de l'oncle de Jules, soient Anishinabé. Donc on a le personnage de Nini, qui est interprété par Kevin Papati. C'est son premier rôle au cinéma, mais lui, c'est un cinéaste Anishinabé. J'ai réussi à le convaincre, c'est très, très bon dans le film. Et puis beaucoup de jeunes acteurs, d'autres amis de Jules qui rencontrent là-bas, c'est tous des gens, les deux autres jeunes, ils viennent de la communauté de Pikogan. Et donc, c'était toutes des premières expériences. J'ai adoré travailler. J'adore se travailler avec des jeunes, surtout quand c'est leur premier, quand tu trouves le bon jeune, puis c'est leur premier rôle, il y a quelque chose de très naturel, très authentique. J'adore travailler comme ça, en fait.
Et ce qui a été intéressant aussi, de trouver les lieux de tournage, hein, c'est magnifique. Rivière et tout, c'est quand même des conditions de tournage qui sont pas nécessairement toujours évidentes, là.
Ouais. Oui, on a beaucoup... D'habitude, sur ce genre de film, on engage des directeurs de recherchistes de location. Mais dans ce cas-ci, c'était tellement un personnage. Pour moi, je voulais vraiment... C'est un film d'aventure. Les deux jeunes partent à l'aventure dans la forêt. Ils traversent des paysages. Ils s'en vont loin. Fait que pour moi, c'est important qu'on sente les kilomètres parcourus, la variété de paysages, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on part à l'aventure avec eux. Puis je voulais trouver... Il y a beaucoup de magie dans le film. C'est un film qui passe beaucoup dans l'imaginaire aussi. Fait que c'était vraiment important pour moi que les paysages, parce que la nature, quand c'est magnifique, c'est magique. Fait que c'était vraiment important pour moi de trouver les plus beaux paysages pour que nos comédiennes jouent là-dedans puis qu'on croit à ce monde qui est un peu différent du nôtre. Fait que on a vraiment travaillé fort pour trouver les plus beaux paysages, le refuge d'achat aussi, c'est trouver cet endroit-là, le rendre magique, pour les adultes que pour les enfants.
Tout à fait. Alors vraiment, ça vaut vraiment le déplacement pour ces magnifiques paysages. Et bon, on peut parler de la distribution aussi, c'est-à-dire la distribution, les comédiens que l'on reconnaît bien aussi dans le film.
Oui, donc il y a Marie-Lise Bourque qui joue la maman.
La maman,
Jules, oui. Qui est absolument incroyable, ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est très, très bonne dans ce film-là. C'est un film d'époque, elle a une façon de se tenir, de parler, qui est propre à cette époque-là, que je trouve qu'elle
est
vraiment bien rendue.
J'ai un bon casting pour l'époque, tout à fait.
Vraiment.
1940.
Évidemment, c'était absolument fantastique de travailler avec elle. Puis après, on a Emmanuel Schwartz qui joue le méchant oncle Jovite. Et donc, ça aussi, c'est amusant parce que là, on joue vraiment avec les archétypes du conte, les personnages. Il y a les bons, il y a les méchants. Puis, on peut jouer avec ces notions-là. Fait que je pense que Emmanuel s'est bien amusé à faire ça aussi. Donc, donc on a nos deux vedettes.
Ouais, c'est ça. J'ai ma recherchiste qui m'avait mis une question pour vous comme ça parce que elle était sans doute intriguée par la maladie de Jules. Est-ce que c'est une maladie qui existe ou c'était vraiment pour le plaisir?
Non, ça c'est une maladie inventée. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées dans ce film-là. On est vraiment dans le réalisme magique. Fait que maladie-là est inventée, c'est vraiment pour rendre comme une espèce de rentrer dans cet univers-là où on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité.
Non, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme une maladie sur ses bras. C'est comme un peu de l'écorce. Alors, évidemment, ça fait comme écorce de bouleau. C'est à la fois, amusant comme, comme référence et tout. Mais enfin, donc, votre film, finalement, arrive aussi dans une période... bon, il n'y a rien qui est laissé au hasard, bien entendu. Il n'y a pas de hasard, c'est ce que je voulais dire. Mais arrive dans une période où on a, je pense, une grande ouverture aussi pour tout ce qui est autochtone et puis pour cette histoire, pour, je pense qu'il y a toute cette sensibilité aussi que le public a et les enfants qui, évidemment, qui découvrent aussi tout un pan de cette histoire-là.
Ben, écoutez, je l'espère. Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur le film. Fait que, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là, je pense qu'on en parlait beaucoup moins. Donc, je suis contente, en fait, que ça sorte à un moment où les gens sont peut-être plus curieux, puis ont envie de s'instruire. Et puis, ça tombe bien. Mais, comme quand on commence à travailler sur un film, on sait jamais combien
non, c'est vrai.
Ça va prendre. Et on sait jamais quand est-ce que ça va être fini. Et donc, c'est un heureux hasard. Mais je pense qu'on est dans une période de réconciliation. Il y a plus d'ouverture.
Tout à fait.
Et puis, je pense que l'important, c'est de toucher le cœur des enfants avec une histoire d'amitié et d'aventure. Fait que je pense que si en plus de ça, on peut s'ouvrir aux autres, ben,
c'est tant mieux. En fait, et puis bon, vous le faites un peu dans l'esprit. Bon, compte pour tous, on sait que vous avez quand même beaucoup, on pense à Roch de Merce, hein, qui a été quand même un peu impliqué dans votre projet. Ben, là, on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux dire, Roch de Merce a quand même été intéressé à votre projet, quand même, et puis malheureusement, il est décédé un peu avant
juste
la sortie.
Avant. Il est décédé juste avant la première semaine de tournage. Donc, lui, il était impliqué surtout en développement. Dans le scénario, et puis quand on a commencé le casting, il y avait toujours des bons conseils quand on hésitait entre un acteur ou un autre pour les jeunes, parce qu'il y a tellement dans sa vie eu à choisir de jeunes que c'était vraiment fascinant d'avoir son point de vue sur certaines choses.
Il avait une grande expertise, c'est ça. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment, Sophie, et puis ça a été un plaisir, Sophie Farkas-Bolla, de parler avec vous. Alors, Jules, au Pays d'achat, c'est à voir en ce moment au cinéma. Alors, merci, je vous souhaite une bonne journée, et puis ben, j'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Évidemment, on sera là demain entre midi et 13h, aime l'été. Alors, au revoir et passez une excellente journée.